9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Votre santé sur Beurre FM, on s'occupe de votre santé, 9h-10h, le magazine de la santé sur Beurre FM. Et c'est un Belge qui nous rejoint aujourd'hui, il s'appelle Bruno Humbeck. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes psychopédagogue, c'est quoi qu'un psychopédagogue?
C'est un mélange d'un psychologue et d'un pédagogue. En Belgique, on mélange tout. Hein.
Oui, parce qu'en France, on a moins ce...
En France, vous avez Boris Cyrulnik et Mérieux, ben, nous on les a mélangés. En
fait, ah ouais, et donc si vous êtes un croisement des deux...
Voilà.
Alors vous êtes directeur de recherche au Centre de Recherche en Inclusion Sociale de l'Université de Mons, c'est en Belgique, et vous êtes un des spécialistes majeurs de la gestion du harcèlement scolaire et professionnel. Et vous publiez justement chez Odile Jacob un livre qui s'appelle « Pour en finir avec le harcèlement à l'école, au travail et sur le net ». C'est la même chose c'est similaire ou pas du tout?
Tout à fait. Les mécanismes sont les mêmes, simplement avec les réseaux sociaux, on met une caisse de résonance sur un phénomène réel. Mmh. C'est pas un autre harcèlement, c'est le même harcèlement, mais avec des effets démultipliés.
D'accord. Vous passez par le monde animal pour un petit peu expliquer ce que c'est que, on va dire, la prédation et la soumission.
Alors,
pourquoi?
Justement, pour éviter de se tromper de mots, parce qu'on se trompe très très vite avec les termes, et quand on veut étudier un phénomène humain, on doit toujours l'attaquer par ses racines animales, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'animal chez nous, hein, inévitablement.
Ouais. Ah, ça, je ne savais pas qu'il fallait toujours passer par l'animal.
Et en même temps, par l'aspect social, hein, qui permet à un homme de se mettre en société. Si vous prenez les types d'agressivité qu'on trouve chez les animaux, par exemple, vous avez ce qu'on appelle l'agressivité par irritabilité diffuse. En gros, si vous avez mal aux dents, ou si un chien a mal aux dents, il va être plus agressif que normalement. Alors, c'est pas du harcèlement, cette agressivité-là. Si vous voulez voir comment elle fonctionne, cette agressivité, observez-vous quand vous faites des courses. Si
vous êtes coincé... Vous prenez l'exemple de la caissière de voilà. Supermarché, je me suis vu...
Mais on se voit tous parce que notre cerveau est configuré d'une manière telle qu'on va chercher une cible, inévitablement. On va se dire...
Vous connaissez cette histoire? C'est que vous arrivez à la caisse, toutes les caisses fonctionnent, au moment où vous y arrivez, ça ne fonctionne pas.
Ah oui, et pire, vous avez la caissière, sans doute la pire. Et si vous laissez votre...
C'est la pire, et en plus elle le fait exprès,
ça, c'est si vous
pour m'énerver parce qu'elle a décidé de me pourrir ma journée.
Vous avez un cerveau qui fonctionne.
Non, attendez, en plus elle va changer, je fais exprès de l'embêter, elle fait exprès parce qu'elle va changer le rouleau d'étiquette
caisse. Juste à ce moment-là, ouais. Ça c'est votre cerveau qui interprète tout pour pouvoir diluer l'agressivité. C'est pas du harcèlement ça. Prendre par exemple... Bah, si vous êtes avec un conjoint qui est éternellement de mauvaise humeur, il va vous prendre pour cible régulièrement avec le même mécanisme de chercher une cible, ce que fait le cerveau. C'est casse-pied, c'est même parfois très très chiant, mais ça n'est pas du harcèlement. Et on ne va pas régler le problème. Alors, le problème n'est pas
seulement... C'est quoi ? Si ce n'est pas du harcèlement, c'est quoi ?
C'est juste de l'agressivité qui se dilue, je vais dire, dans la vie sociale que l'on mène avec l'autre.
Mais c'est pas normal quand même.
C'est pas agréable et c'est sans doute pas normal et ça doit se gérer, mais pas de la même façon que le harcèlement.
Mais si vous avez votre patron qui toujours arrive, qui est de mauvais poil et qui vous voit passer dans le couloir et qui se décharge sur vous...
C'est chiant, c'est mal, difficile à vivre et on doit régler ça, mais on va régler ça... En l'amenant sans doute à avoir d'autres stratégies pour gérer sa mauvaise humeur ou en évitant les disrupteurs d'humeur, par exemple l'alcool ou le manque de sommeil. Donc ce sont les traitements qui vont être différents en fonction de racines différentes. L'autre agressivité, l'agressivité par peur par exemple, hein, qui est une agressivité. Alors l'agressivité par mauvaise humeur, elle se voit. C'est assez généreux d'ailleurs de le montrer par le corps. Si vous êtes de mauvaise humeur...
J'ai pas compris pourquoi vous disiez ça, de dire c'est généreux, mais vous pouvez pas faire autrement de toute façon.
Bien sûr, parce que c'est le corps qui est généreux. Il indique aux autres, mettez-vous à distance. Je suis pas très fréquentable et si vous me fréquentez, vous risquez d'en subir les conséquences.
Je suis mauvais poil aujourd'hui,
voilà.
À bâbord.
Les autres vont le voir. Par contre, l'agressivité par peur, elle se voit pas. Elle montre pas d'indice et elle se déclenche brutalement. C'est une agressivité, par exemple, qu'on peut soupçonner comme étant l'agressivité déclenchée chez quelqu'un comme Bertrand Cantat, qu'on confond parfois des situations de harcèlement. C'est probable et c'est pas plus acceptable ni plus recommandable et ça doit être traité aussi. Sans doute une personnalité narcissique qui a peur d'être quittée, qui supporte pas cette idée-là et qui déclenche brutalement de l'agressivité. Il faut évidemment gérer ce problème-là, mais pas par les mécanismes qui sont ceux qui vont amener à la confusion. Par exemple, et je prends l'exemple dans le livre de manière très précise, dire que Weinstein est un prédateur.
C'est Adjani qui le dit. Vous citez l'exemple d'Adjani, mais c'est pas la seule à l'avoir dit.
C'est pas la seule à l'avoir dit.
Oui. C'est-à-dire que tout le monde l'a suivi derrière.
Camus le dit beaucoup mieux que moi, mal nommer les choses, c'est ajouter à la violence du monde. Et c'est très clair que quand on nomme les choses, effectivement, quand on parle de prédation, la prédation, c'est immobiliser quelqu'un pour le consommer. Jusqu'à preuve du contraire, Weinstein n'a jamais voulu consommer personne et l'immobiliser en le tuant. Ça ne rend pas non plus ses comportements plus recommandables, c'est probablement ce qu'on appelle un tyran sexuel. C'est-à-dire qu'il va puiser dans cette forme d'agressivité qui est celle qui est mise en jeu dans le harcèlement, qui est l'agressivité hiérarchique. Lorsque vous avez du pouvoir, que ce pouvoir vous donne une puissance démesurée et qu'on vous donne en plus de l'autorité, inévitablement, eh bien, vous allez risquer de commettre des manifestations de ce pouvoir qui sont de l'agressivité hiérarchique sans fin. C'est pas un hasard, hein, Weinstein, Tariq Ramadan, Strauss-Kahn, le pouvoir politique, spirituel, le pouvoir économique, lorsqu'une société donne une puissance excessive à ce pouvoir et que la personne n'est plus en mesure de le gérer, à ce moment-là, il faut un argument judiciaire qui dit stop.
Ouais, parce qu'il voudrait dire que ça épargne quand même, en tout cas, du harcèlement des personnes qui n'auraient pas de pouvoir, qui n'auraient pas d'argent.
Alors, ça permet de dire à un moment donné que tout ce qui ne met pas en jeu une agressivité hiérarchique, donc des situations de prise de pouvoir l'un sur l'autre, c'est des formes
d'agression. Autre chose qui se joue.
C'est autre chose. Et donc, d'accord, il y a d'autres remèdes. C'est juste une question de ne pas se tromper de remède. Hein. Si vous vous trompez sur les mots, vous risquez de vous tromper sur les remèdes.
C'est ça que vous voulez dire. C'est qu'en fait, vous voulez dire que...
On est dans une agressivité hiérarchique, ça veut dire qu'elle va se manifester d'ailleurs systématiquement dans toutes les démocraties. Dans toutes les démocraties, vous allez voir apparaître des rapports de pouvoir. Le seul endroit où on ne trouve pas de harcèlement, c'est les dictatures. Parce que la violence peut s'exercer à visage découvert et que ceux qui sont plus fragiles ou en difficulté ne savent pas se regrouper.
Le harcèlement n'existe pas dans les dictatures.
Il n'existe pas. La violence existe et elle se manifeste sans devoir se déguiser. Le harcèlement, c'est une violence qui est déguisée, qui prend la forme, par exemple, socialement acceptable, mais tout aussi invivable, du sarcasme, de l'ironie, de la moquerie, qui se déguise en humour.
Et vous dites du mépris.
Du mépris, par exemple.
Dire que le mépris, c'est pire que tout. Moi, j'aimerais qu'on va revenir sur la définition, puisque vous dites que finalement, si on veut bien prendre en charge un problème, il faut bien le définir. Donc, le harcèlement, mais là, on parlait de harcèlement sexuel, n'est pas de la prédation. Vous dites que, par exemple, dans le monde animal, la soumission existe.
Bien sûr.
Hein? Sauf que dans le monde animal, la nourriture est remplacée par la nourriture dans le monde animal est remplacée par l'argent. Chez les humains.
On est dans des registres très similaires.
Voilà, c'est ce transfert qu'il y a.
La prise de pouvoir se fait par l'argent, par le pouvoir économique, etc. Et donc vous avez des symboles de prise de pouvoir. Et il y a du harcèlement dans tous les groupes humains contraints. Dès que vous avez un groupe humain contraint, c'est-à-dire des êtres humains amenés à vivre ensemble dans un espace devenu un territoire, donc un espace fermé. C'est comme ça qu'on génère de l'agressivité. Hein. Il suffit de fermer des espaces, vous en faites des territoires... C'est pour ça que tant de politiques sont fascinés par l'idée de faire des murs. Hein. C'est très facile de faire des murs autour de votre pays. Vous ne pouvez même pas les faire très haut. Il suffit de mettre l'idée d'un mur, vous allez générer de l'agressivité à l'intérieur. Après, il suffira de dire, il y a nous et il y a eux. L'agressivité, on la déverse vers l'extérieur. Écoutez une cour de récréation. C'est typique d'un espace transformé en territoire. Vous allez écouter sur le coup de 10 heures, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quel village, il y a un espace qui fait un bruit particulier, c'est la cour de récréation. Les enfants crient de manière anormale. C'est parce qu'on a transformé en territoire leur espace, c'est-à-dire que l'espace est clos. Vous aurez l'équivalent que dans un espace, si vous allez aux eaux de Vincennes, vous allez repérer la cage des babouins. De la même façon que vous allez repérer une cour de récréation. Il faut un bruit.
Il y a les couloirs de la radio, si vous voulez. Hein. Si vous mettez 4 ou 5 enfants qui courent dans le couloir, vous allez voir, ça va crier.
C'est parce que vous êtes dans un espace clos. Et si vous les amenez à rester durablement dans cet espace clos, vous allez voir se manifester des rapports de pouvoir qu'on voit systématiquement dans les groupes humains contraints. C'est pour ça qu'il y a des saisons de harcèlement. Dans un premier
temps, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a une saisonnalité. Et là, vous parlez surtout du harcèlement scolaire.
Oui.
Parce que, enfin, vous ne parlez pas du harcèlement ni au travail, ni du harcèlement sexuel. Alors, expliquez pourquoi, dans le harcèlement scolaire, il y aurait une saison.
Alors, parce que les groupes humains contraints, mais ça fonctionne aussi pour le groupe, y compris sans doute avec vos collègues ici à la radio. Vous êtes obligé de fréquenter des personnes. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec l'obligation de partager un territoire pendant une durée déterminée. On le voit de manière spectaculaire dans les émissions de télé-réalité. Dans un premier temps, euphorie communautaire. Qu'est-ce que c'est chouette d'être ensemble. Ils sont tous copains comme cochons, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis des années. c'est ce qu'on appelle, nous, la basse saison du harcèlement. Généralement, en septembre, dans les espaces professionnels, ça se passe bien. Les enseignants disent « on a une bonne équipe ». Et la plupart d'entre eux disent « je crois que j'ai une bonne classe ». Il n'y a pas de situation de harcèlement en septembre. C'est ce qu'on appelle la basse saison. À partir de la mi-octobre, vous allez voir, les enseignants, d'ailleurs eux-mêmes, commencent à parler un peu sur le dos les uns ou les unes des autres. Et ici, ça se fait sans doute aussi. On parle un peu.
Il y a Beurre FM.
Bien sûr.
Bon, nous, on est toujours en haute saison. Qu'est-ce que je voulais, mon monsieur ? Il n'y a pas de basse saison.
C'est nécessaire.
C'est le show business ici.
Mais c'est indispensable de le faire parce qu'on doit pouvoir se dire si un tel n'était pas là, on vivrait mieux. Si une telle disparaissait, on vivrait plus sereinement. Ça permet de maintenir l'illusion de l'euphorie communautaire. Et on voit dans les classes. Ça commence en maternelle, c'est jusqu'à la fin des études, c'est jusqu'à la fin de votre vie. Vous allez voir simplement des formes qui vont changer. En maternelle, ça prend la forme de bousculade. C'est toujours les mêmes qui bousculent toujours les mêmes.
Alors on revient sur les saisons. Septembre, la rentrée, tout va bien. Mi-octobre, ça commence à balancer.
Donc c'est la moyenne saison. Ça commence à créer des secousses émotionnelles qui prennent des formes de plus en plus identitaires. On veut pas jouer avec toi parce que t'es pas beau, parce que t'es roux, parce que t'es ceci, parce que t'es cela. On commence à secouer les personnes. C'est la moyenne saison. Pendant cette période-là, d'ailleurs, les parents sont offensifs vis-à-vis de l'école, ils sont pas encore agressifs. Ils disent il faudrait faire quelque chose. Ça se gâte à partir du mois de janvier où on entre en haute saison du harcèlement. Les sous-groupes et les couples sont constitués et ceux qui sont isolés sont anéantis par les groupes. Et là, on a des situations de harcèlement qui se démultiplient et qui se mettent en place avec des parents qui, effectivement, là, sont complètement perdus parce qu'ils voient leur enfant souffrir, sont désespérés de voir cette souffrance et ils exigent que l'école mette en place quelque chose. Et ça va s'arrêter à la mi-mai, donc vous aurez basse saison, moyenne saison, haute saison, rebasse saison, parce que le groupe sent qu'il va se disloquer, et donc vous avez effectivement à ce moment-là des mécanismes qui font que tous les conflits s'arrêtent. Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle, on dit, si le harcèlement n'aurait qu'à laisser faire, ça s'arrête quand même. Le problème des rythmes saisonniers, c'est que ça crée du fatalisme. Et vous avez constamment ce mécanisme qui se remet.
Mais ils ne sont pas identifiés, enfin je veux dire, c'est la première fois que j'entends ça.
Ah non, c'est un phénomène que les chercheurs connaissent, hein, peuvent
identifier. Ah non, écoutez, c'est la première fois que j'entends parler des saisons du harcèlement.
Mais vous allez le voir dans la réalité des faits, vous allez l'observer, et les enseignants en sont parfois les premières victimes. Parce que, ayant été confrontés à un rythme saisonnier, ils vont manifester une forme de fatalisme. Ça se passe comme ça avec les saisons météorologiques aussi. Vous avez des gens, en Belgique comme en France, hein, puisqu'on a le même type de saison, quand on leur dit en juin, regarde, il commence à faire beau, ils vous disent ça va pas durer, il va bientôt pleuvoir, et de toute façon, ce sera bientôt l'hiver, et ils ne récupèrent plus. Et les enseignants, il faut le savoir, ils ont une caractéristique professionnelle tout à fait particulière, ce sont des anciens élèves, pour la totalité d'entre eux. Ça veut dire qu'ils ont vécu aussi ces cycles de harcèlement, et tout le monde a vécu le harcèlement dans une position particulière. Si je vous demande de réfléchir à un souvenir d'école dans lequel vous avez rencontré de la souffrance, vous allez en trouver. Soit parce que vous avez pleuré, soit parce que vous avez fait pleurer quelqu'un, soit parce que vous avez vu quelqu'un pleurer. Tout le monde a un souvenir dans lequel, à un moment donné, et dans tous les cas de figure, que vous ayez pleuré, ça veut dire que vous avez souffert, donc ça fait des secousses émotionnelles. Si vous avez fait pleurer quelqu'un, eh bien vous avez aussi une secousse émotionnelle, parce que on se dit il y a quelque chose qui ne va pas dans mon comportement. Et si vous avez observé sans rien faire, ce qui est la plupart des cas, la situation qui se pose, vous aurez la même secousse émotionnelle. Les enseignants ont cette secousse qui se met en place chaque fois qu'ils font ce qu'on appelle la pédagogie. C'est-à-dire ils couvrent du chaos. Ils savent bien que dans leur classe, ça ne va pas parfaitement. Et puis ils disent, ok, j'ai pas eu d'incident cette année, ouf, ça va. Et puis ça recommence. C'est ça qui va créer ce qu'on appelle l'usure de compassion.
Bon, là on a basculé sur le harcèlement scolaire. En tout cas, vous dites que le harcèlement scolaire, c'est forcément un phénomène collectif.
Oui.
J'ai bien compris. Oui, pourquoi c'est forcément collectif? Si c'est du one-to-one, d'une personne à personne...
On va le faire ensemble, hein, si vous voulez bien. Je vais venir vous
bousculer. J'aime pas savoir ce qui va m'arriver.
Alors,
fallait qu'on répète tout à l'heure, là.
Alors, on va le faire de manière symbolique, rassurez-vous. Oui, oui. Je vais vous bousculer toutes les 3 minutes, comme ça, de manière répétitive, intentionnelle et relativement nuisible. C'est pas agréable. Est-ce que je suis un harceleur, selon vous? Si je prends la définition juridique, vous pourriez être tenté de dire oui.
Mais est-ce qu'il y a une définition juridique en France ?
Celle-là, oui, elle existe, elle reprend ces critères-là. Ouais. Intentionnalité, répétition et caractère nuisible de la démarche. Mais je ne suis pas un harceleur. En fait, je suis un emmerdeur. Et vous allez très vite me le dire, si je vous bouscule comme ça régulièrement, au bout d'un moment, vous allez me dire d'arrêter. Si vous ne le dites pas vous, quelqu'un le dira à votre place et ça s'arrêtera. Mais on va imaginer maintenant une autre scène dans laquelle chaque fois que je vous bouscule, je regarde la personne qui est à côté de nous et on se met à sourire de manière connivente.
Alors c'est dynamique.
Voilà, là je vais devenir un harceleur parce que je vais figer les rôles, le dominant, celui qui est mis dans la position du dominé et ceux qu'on appelle les spectateurs.
J'aime pas du tout votre jeu tout de suite. Alors,
là, c'est-à-dire qu'ils agissent en regardant. Ce qui va l'expliquer encore mieux, c'est les blagues sur les blondes. Regardez comment on fait des blagues sur les blondes. Vous connaissez sans doute cette manière de procéder qui se fait rarement pour un homme seul face à une blonde. Si vous êtes dans une relation interpersonnelle, vous allez faire une blague sur les blondes à une blonde. Si elle ne rit pas, vous allez vous retrouver avec votre humour très lourd sur les bras.
On appelle ça un GMS.
Si elle vous fait...
ouais, un grand moment de solitude.
Et si elle vous fait remarquer que vous n'êtes pas drôle, c'est comme si elle mettait une enclume dans vos mains. Vous allez donc faire ce que font tous les hommes. Se regrouper entre hommes et commencer à rire ensemble des blagues sur les blondes. La blonde va être très très vite coupable trois fois. Coupable d'être blonde, d'être supposée bête parce que blonde, et si elle ne rit pas, on va dire, elle n'a pas d'humour, hein, c'est parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle est blonde, et elle va être enfermée. C'est comme ça que le harcèlement crée ce sentiment d'impuissance.
Bien, Bruno Humbug, vous êtes notre invité. Le temps d'une page de publicité pour laisser retomber la pression, et on continue à parler du harcèlement ce matin jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
On parle du harcèlement, le harcèlement à l'école, au travail, sur le net. C'est le titre du livre que mon invité vient de publier aux éditions Odile Jacob. Mon invité s'appelle Bruno Henbeck et je rappelle que vous êtes psychopédagogue, que vous venez de Belgique. On était en train de parler de la définition du harcèlement. Alors on a vu... on a commencé à évoquer avec vous tout à l'heure le harcèlement scolaire. Ce que vous m'avez pris comme exemple, ça se voit.
Oui, tout à fait.
On le voit. Bon. Mais vous, ce que vous dites que dans le harcèlement, c'est que finalement, c'est quelque chose auquel tout le monde participe.
Tout à fait.
Et que ça ne se voit pas. Comment est-ce qu'on peut ne pas voir quelque chose auquel tout le monde participe?
Alors, je peux par exemple utiliser le sarcasme, l'ironie, la dérision, le sarcasme pour vous briser, l'ironie pour vous mettre à distance, la dérision pour vous rendre tout petit. C'est des formes de violence invisibles. Si à un moment donné, effectivement, vous dites « mais je voudrais qu'on arrête de se moquer de moi », je vous dis « mais c'est de l'humour ». C'est de l'humour, vous ne comprenez pas.
Ouais.
Et donc, on a des formes sociales. C'est pour ça que je parlais de démocratie qui, évidemment, dans lesquelles, évidemment, l'agressivité va se manifester de cette manière-là. Les réseaux sociaux vont donner une caisse de résonance.
Mais restons à l'école.
Oui.
Parce qu'une classe, c'est nombreux.
Bien sûr.
En général, avant, il y avait ce qu'on appelait la tête de Turc.
C'est ça,
bon,
tout à fait.
Mais la tête de Turc, on la voit. Je veux dire, les adultes sont témoins de ça.
Alors, pas du tout. La violence, elle va s'entendre. C'est-à-dire que si vous mettez en place des espaces de parole où les gens ont une parole qui est libérée mais qui est protégée, et c'est ça qu'on met en place actuellement dans les écoles comme dans le monde de l'entreprise, on en parlera. Si vous espérez que les gens spontanément vous disent « je suis en difficulté et je voudrais me plaindre d'un dominant, par exemple », on l'a vu dans des espaces de parole qui deviennent des espaces de discussion, si on ne donne pas des outils très clairs aux enseignants pour redonner le pouvoir à ceux qui ont besoin de ce pouvoir, eh bien vous allez rendre le pouvoir dans les espaces de parole à ceux qui l'ont déjà. Je prends l'exemple d'une situation vécue où un petit garçon qui s'appelle Brian, de milieu moins favorisé, explique dans un espace de parole mais non régulé, donc quelque chose qu'on appelle un groupe de citoyenneté, explique qu'il n'en peut plus parce que Gontran se moque de lui. On va voir tout de suite Gontran intervenir pour dire « Brian, s'il te plaît, tu ne dois pas confondre l'humour et la moquerie. On ne rit pas de toi, on rit avec toi. » Et la petite cour de Gontran, c'est un dominant, il a une petite cour, commence à intervenir pour dire « Brian, c'est vrai d'ailleurs, on est bien gentil de jouer avec toi. » Et on commence à lister tous les défauts de Brian, qui se rend compte que si tous les hommes sont égaux, certains sont quand même beaucoup plus que d'autres. Et surtout, il prend la leçon, si vous n'êtes pas un dominant, ne prenez jamais la parole dans un groupe pour l'attaquer devant le groupe va se retourner contre vous. C'est tellement vrai que dans le petit film qu'on a tourné, les enseignants se tournent vers la caméra et disent « on peut comprendre Gontran parce que Brian, il est lourd quand même ». Alors comment voulez-vous que cet enfant puisse parler? Et on l'a vu par exemple dans les espaces de parole mis en place en Belgique juste après les attentats. C'était très clair, les enseignants n'avaient pas d'outils pour le faire et on leur a dit faites du débriefing. J'étais à Verviers ce jour-là. Verviers, c'est une ville dans laquelle il y a effectivement une énorme disparité culturelle. J'ai vu un enseignant complètement perdu. Il demande, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé dans les attentats à Charlie Hebdo? J'aseptise ce que j'ai vu, c'était pire. Hein. Un groupe, on a bien fait de les dégommer, ces salopards, n'est pas se foutre de notre religion. Un autre groupe, retournez chez vous, sale bougnoule, vous devez respecter la liberté d'expression. Un enseignant, il n'en peut rien, on lui donne pas de technique. Il se retrouve entre les deux, il prend un peu parti pour les uns, un peu parti pour les autres, il a des plaintes de parents pour islamophobie et pour islamophilie. C'est ce qu'on appelle l'islamophobie, hein, quand vous êtes entre les deux. Simplement, si vous dites, on va protéger cette prise de parole, et on va simplement mettre des techniques en place pour que les émotions soient protégées, au lieu de dire qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez, on dit qu'est-ce que vous ressentez, et on leur demande de penser en termes d'émotions. Vous avez un élève qui vous dit, moi je suis triste parce que se moquer du prophète, c'est comme se moquer de mon père. Très bien, on ne contredit pas ton émotion. Un autre vous dit, moi je suis en colère parce que tu es dessinateur, ça se fait pas. Très bien, on contredit pas l'émotion, vous protégez la prise de parole. On reprend le petit Brian. Quand il dit « Je suis en colère parce qu'on se moque de moi », qui a le droit de contester son émotion ? Si vous avez un système dans lequel on vous dit qu'une émotion se dit, ne se contredit pas, vous allez enfin discriminer l'humour de la moquerie. C'est un enjeu essentiel en matière de prévention du harcèlement, parce que ce ne sont pas les émetteurs qui disent « C'est de l'humour ». Si je vous envoie une vanne et puis que je dis « C'est pour rire », c'est pas à moi à le dire, c'est à vous à dire si vous avez été affecté. C'est le récepteur qui, parce que son émotion est protégée, range le message dans l'humour ou dans la moquerie.
Dans beaucoup d'affaires de harcèlement qu'on voit aujourd'hui et qui sont médiatisées, on se rend compte que, un, les parents n'ont rien vu venir, que, deux, les enseignants n'ont rien vu venir, que le gamin vivait ça depuis plusieurs mois et qu'il n'a rien dit. Moi, encore, je reviens sur ma question. Comment est-ce qu'on ne peut pas voir qu'un enfant est harcelé alors que tout le monde participe ?
Plusieurs raisons, parce que l'enfant va se taire. 6,9% des enfants seulement parlent de ce qu'ils vivent et ils se taisent essentiellement parce que, pas parce qu'il n'a pas confiance dans les enseignants. Moi, quand je demande à un enfant en consultation, est-ce qu'il y a quelqu'un en qui tu as confiance, qu'il soit en fondamental, en primaire ou en secondaire, il me cite toujours un enseignant. Il a confiance dans la personne, mais il rajoute toujours « Mais je ne suis pas sûr qu'il sait ce qu'il doit faire. » Et il risque de faire pire que mieux si, par exemple, il sanctionne le harceleur et que j'en paye les conséquences, etc. Il a confiance dans la personne, mais pas dans l'outil. Et la personne à qui il en parlera le moins, c'est généralement son parent.
Mais pourquoi ? Parce qu'il pourtant, vous avez confiance à vos parents.
La confiance, mais on est tellement proche, effectivement, de lui, que je lui dis, si j'ai du chagrin, et que je lui dis, ça va lui faire de la peine. J'aurai non seulement mon chagrin à porter, mais la peine que j'ai constituée chez lui. J'ai toujours en tête, d'ailleurs, cette lettre adressée par une jeune fille qui se suicide, qui met une lettre à ses parents en disant, je me suis suicidé, je vous ai parlé de rien parce que je voulais pas vous faire de la peine. Vous imaginez le paradoxe, hein ? Elle se suicide, elle va les désespérer, mais elle veut simplement les préserver. Une scène classique que j'ai dans mon bureau, deux parents qui entendent le témoignage de l'enfant qui effectivement raconte tout ce qu'il vit, parce que moi il voit que je suis contenant, donc il sent qu'il peut raconter les choses. Les parents s'effondrent et me disent, mais ils lui disent, mais pourquoi tu ne nous as pas dit ça ? Je suis toujours obligé de rajouter, vous avez un enfant très délicat qui veut vous préserver. C'est le problème des enfants qui, effectivement, ont peur de surcharger des parents qui ont l'impression d'être démunis face au harcèlement. C'est pour ça que dans chaque émission, je le dis, je le répète, il y a des outils, ils fonctionnent. On doit pouvoir dire à un enfant victime de harcèlement ou à un adolescent, c'est fini, c'est plus ton problème, c'est notre souci d'adulte, c'est à nous à agir.
D'accord.
Pas demander à l'enfant et à l'adolescent d'agir.
Est-ce qu'il y a un profil de victime ou pas ?
Non. Bonne question.
Comment est-ce que la victime est choisie alors ?
Parfois par hasard. Il y a
parce qu'avant, il y avait le petit gros, le petit roux.
Voilà, ça, c'est l'imagerie qu'on a.
Voyez,
ceux-là sont relativement préservés, d'ailleurs. Ceux qui ont des stigmates sociaux ne sont pas menaçants pour les dominants. Ceux qu'on retrouve le plus souvent, ce sont des dominants contrariés, c'est-à-dire des personnes qui auraient pu être dominants.
C'est donc le grand mal alpha, le chef du groupe, qui va choisir la victime.
Qui peut effectivement venir en opposition avec ces personnes. Toutes les cas sont possibles, y compris le harcèlement, tout à fait aléatoire. Ça tombe sur votre tête parce que c'était vous au mauvais moment. La situation la pire de harcèlement que j'ai eu à gérer l'année passée, c'est une situation dans une fac de médecine. Donc, c'est pas une question d'intelligence ni d'âge des personnes.
C'est des grands.
Voilà. Et vous avez un gars qui, en début d'année, sort une blague, pas drôle. Les autres se retournent vers lui, disent tiens, vanne pourrie. Et ils vont l'appeler la vanne pourrie à longueur de temps. Alors ça commence comme ça, et puis ça finit par une forme de harcèlement, au point qu'à un moment, dans un séminaire résidentiel, il saute par la fenêtre. Parce que vous avez simplement c'était la mauvaise personne au mauvais moment, et vous avez été choisi par le groupe, ou par un individu qui utilise le groupe pour vous écraser, ou le groupe qui utilise un individu pour vous écraser. Dans les deux cas de figure, vous êtes effectivement anéanti par un groupe. Sur les réseaux sociaux, c'est encore plus vrai. Vous pouvez très vite vous retrouver en situation de cyberagression, simplement par...
C'est quoi les spécificités du cyberharcèlement ?
Alors, c'est simplement une caisse de résonance qui fait qu'à un moment donné, tout est amplifié par l'espace virtuel, que l'agression est souvent encore plus forte parce que...
Vous dites que, en fait, c'est comme un effet de violence graduelle.
C'est ça.
Donc, ça monte c'est crescendo.
Avec un effet de meute, on ne sait plus très bien qui agresse.
L'effet tribal numérique, l'effet LOL, l'effet mandarin chinois. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'effet mandarin chinois ?
L'effet mandarin chinois, c'est un effet qui démontre que quand vous ne voyez pas le visage de la personne que vous agressez, vous l'agressez sans frein. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand il y a une agression physique qui doit aboutir à la mort, vous avez au moins un des deux qui est masqué. Parce que les visages qui se rencontrent vont se neutraliser. La seule façon de faire, si vous voulez agresser jusqu'au bout, vous devrez avoir fait passer l'autre pour un animal, en le traitant d'un non-animal. Mais dans tous les cas de figure, les visages préservent généralement. Or, d'un point de vue numérique, vous ne le voyez pas.
Et l'effet cockpit.
L'effet cockpit, c'est celui que, qui a été mis en place aussi, qui a été identifié après... comment que le pilote ait déversé la bombe atomique. Lorsqu'il est sorti de son avion, on lui a demandé « ça te fait quoi ?» Il dit « rien ». Et t'as pensé à quoi ? J'ai pensé à la facture de mon frigo que j'ai pas, que j'ai pas payé. Parce que quand vous ne voyez pas les dégâts que vous causez, eh bien, ça n'a pas d'effet dans un premier temps. Ça en a dans un second temps, mais dans un premier temps, ça n'en a pas. Et l'effet mandarin chinois, eh bien, on le contrarie très fort. Si je vous dis « appuyez sur le bouton ici », et si vous appuyez sur le bouton, vous allez devenir instantanément très riche. Mais un mandarin chinois, de l'autre côté de la planète, va exploser. Vous ne voyez pas le mandarin chinois, vous ne savez pas qui c'est. Vous pouvez être tenté d'appuyer. Je fais la même expérience, je vous montre la photo du mandarin chinois en disant « c'est celui-là qui va exploser ». Vous allez déjà avoir moins tendance à appuyer sur le bouton. Et si je suis assis à côté du mandarin chinois, vous n'allez pas appuyer. Simplement.
Il y a combien sur la table ?
Il y a beaucoup, beaucoup.
Ah bon.
Mais il y a le mandarin, ici, il est théorique, donc vous allez appuyer. S'il est physique, à mon avis, voyant son visage, vous n'allez pas le faire, comme la plupart d'entre nous. C'est pour ça que quand on réintroduit dans ce qu'on appelle les espaces de parole régulés du visage, on permet aussi de contrarier les mécanismes de cyberharcèlement.
Mais comment est-ce qu'on le prévient
Alors, comment on prévient le cyberharcèlement ou le harcèlement ?
Non, le cyberharcèlement. Le
cyberharcèlement,
on est dessus parce que finalement, on ne peut pas empêcher les gamins d'y aller.
Non, vous avez raison, il ne faut pas d'ailleurs. Il ne faut pas les empêcher, tous les systèmes préventifs le montrent. Si vous diabolisez les réseaux sociaux, c'est-à-dire si vous dites « attends, t'as 12 ans, non, attends plutôt d'avoir 13 ans, non, attends plutôt d'avoir 14 ans », c'est la meilleure façon d'obtenir du silence. S'il lui arrive quelque chose de négatif, il ne vous en parlera pas. Il sait ce qu'il va entendre, on t'avait dit de ne pas aller là-dessus. Si vous dites les réseaux sociaux, c'est génial, mais il peut arriver des choses dessus. Et là, tu nous préviens, parce qu'on sait comment réagir. On met en place, à partir du mois de novembre, un outil qui est d'ailleurs développé dans le bouquin, qu'on appelle le CyberHelp.
Vous avez une boîte à outils avec vous.
Ah oui, c'est ça, qui permet simplement à l'adolescent, à l'enfant, éventuellement, parce qu'on va de plus en plus tôt maintenant sur les réseaux sociaux, s'il vit une agression, d'appuyer sur un petit bouton qui fait des copies d'écran. S'il estime que cette agression est pour lui vécue comme du harcèlement, il appuie sur le deuxième bouton et automatiquement, les dossiers sont envoyés dans un espace, une école ou un service spécialisé qui va traiter la situation. C'est ça, faire en sorte qu'un adolescent ait le réflexe de se protéger quand il vit une agression. C'est beaucoup plus rentable sur le plan de la prévention que d'essayer de contrôler tout ce qu'il fait en essayant de regarder sur son épaule sur quel espace il se trouve.
Parce que sinon, vous dites qu'on ne peut agir qu'au premier stade.
C'est ça.
Qu'après, c'est trop tard.
C'est jamais trop tard. Non, non.
Non,
c'est jamais trop tard. On peut agir. Mais ce sera beaucoup plus facile de le faire dès que vous avez les premières secousses émotionnelles. Dès que vous êtes en train de vivre ces premières manifestations. C'est pour ça qu'on protège les émotions. Dans le monde de l'entreprise, on l'explique de manière encore plus nette. Dans le monde de l'entreprise, dans les espaces comme des banques, par exemple, où le dispositif a été mis en place, si vous dites « je suis en colère parce qu'on plonge dans mon décolleté », vous aurez une réaction institutionnelle systématique parce que le comportement va être considéré comme étant vécu comme intrusif. Si vous dites « je suis en colère parce qu'on m'appelle ma petite chérie », eh bien, le comportement va être considéré comme étant vécu comme inapproprié. Et si vous dites « je suis dégoûté par toutes les blagues salaces », le comportement va être considéré comme ayant été vécu comme inconvenant, inapproprié, intrusif. C'est les conduites inacceptables.
Je rappelle, Bruno Beck, que votre livre s'appelle « Pour en finir avec le harcèlement à l'école, au travail, sur le net » aux éditions Olivier Jacob, et qu'on parlera justement du monde du travail dans un instant.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Le harcèlement ce matin dans AVS à votre santé avec Bruno Humbeck qui est avec nous, psychopédagogue et directeur de recherche au Centre de recherche en inclusion sociale de l'Université de Mons, c'est en Belgique, qui vient de publier Pour en finir avec le harcèlement à l'école, au travail, sur le net, aux éditions Odile Jacob. Alors vous définissez aussi le harcèlement par ce qu'il n'est pas.
C'est ça.
Alors, c'est vrai que dans le monde du travail, je dis pas que ça devient compliqué, mais en tout cas aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui disent voilà, je suis harcelé, je suis en situation de harcèlement. Il y a le vrai harcèlement et il y a ce qui n'est pas du harcèlement. Comment est-ce qu'on le détecte ?
Alors, on va de nouveau. Le problème, c'est pas qu'il y a des étapes dans le harcèlement. Ce qu'on va voir très vite se mettre en place, c'est des secousses émotionnelles.
Parce que vous parlez, vous, de conduite harcelante.
Conduite harcelante.
Comment on les repère ?
Alors, on va les repérer par l'effet que ça produit sur les émotions des personnes. Quand une personne va pouvoir simplement dire « je suis en colère, j'ai peur, je suis triste, je suis dégoûté par un comportement, une conduite, une attitude », et qu'il sait que cette émotion ne va pas être contredite. C'est-à-dire qu'elle va produire un effet de l'institution, qui est un recadrage souple dans un premier temps. Il ne s'agit pas de faire la chasse aux sorcières, hein. Et dans 95% des cas, le recadrage souple suffit. En gros, vous avez vécu un comportement comme intrusif, la personne, on va simplement le lui signaler, non pas que vous vous êtes plaint, vous avez juste manifesté votre émotion, vous n'êtes pas plaint de quelqu'un, vous avez manifesté votre émotion, on va vous le signaler. On va même rajouter, je suis convaincu que tu ne t'en rends pas compte, mais la personne actuellement vit mal un comportement vécu comme intrusif, par exemple, parce qu'il a l'impression qu'il y a trop de proximité, que tu ne prends pas assez tes distances. On compte sur toi pour que tu tiennes compte du message.
D'accord, mais là c'est, on est vraiment dans le cas de relations interpersonnelles, et tout dépend de la façon dont vous le vivez, finalement.
C'est ça, c'est un vécu subjectif, et c'est comme ça que le harcèlement s'installe, hein, généralement.
C'est-à-dire ?
C'est insidieux. Au début, c'est des secousses émotionnelles qui vont vous amener progressivement à vous poser des mauvaises questions, ce qu'on appelle un état d'âme. Imaginez, vous avez un décolleté. Un décolleté, c'est une façon de s'habiller, c'est pas une invitation à plonger. Et puis, vous constatez effectivement que vous vivez mal un comportement perçu comme intrusif. Vous commencez à vous dire, est-ce que c'est moi qui m'habille mal ? Et vous commencez à vous poser des questions. Et ces questions, si vous voulez poser pendant la durée, ça va devenir des sentiments. Et là, vous allez manifester des formes de fragilité qui vont mettre en place des conditions qui sont susceptibles de dégénérer en harcèlement. Donc les systèmes préventifs permettent des recadrages souples dans un premier temps et de recadrages fermes dès les premiers signaux de harcèlement. Les banques qui mettent ça en place craignent par-dessus tout le harcèlement sexuel. Hein. On le sait, on a une société qui a eu beaucoup, beaucoup d'avertissements par rapport à ça. Et un scandale sexuel, c'est mal vécu par n'importe quelle entreprise, que ce soit une banque ou une autre. Et donc, on doit se mettre en situation, c'est ça 2019, hein, c'est se mettre en situation d'éviter de laisser des prises possibles au harcèlement. Les Black Salas, c'est la même chose, on a vu, hein, les groupes LOL, etc., qui à un moment donné étaient devenus des pratiques usuelles et dans lesquelles des personnes n'ont jamais été recadrées. Et puis se retrouvent après avec un recadrage ultra ferme parce qu'ils ont été beaucoup trop loin, parce que la pratique d'entreprise la culture d'entreprise a laissé passer beaucoup trop longtemps des comportements.
Ou la société, ou les comportements.
Donc ce sont ce que
j'ai dit. Ou les groupes dominants.
Exactement, où on a laissé le pouvoir, la puissance et l'autorité s'installer sans mesure chez un certain nombre de personnes. Et ces personnes-là ont également besoin qu'on contrôle leur comportement.
Mais ce qui veut dire qu'une personne qui est victime de harcèlement, la bonne attitude au moment où elle constate qu'un propos a dépassé, enfin en tout cas qu'elle vit mal un propos, doit recadrer immédiatement.
Ah non, c'est pas elle à le faire. Alors ça c'est la très très bonne question.
C'est pas à vous de le faire.
Ou que ce soit dans l'entreprise, c'est l'entreprise ou l'école qui doit s'équiper et s'outiller. On le voit, vous avez ici un ministre en France qui fait du harcèlement une priorité. La vraie priorité maintenant, c'est de donner des outils pour réagir, parce qu'il ne suffit pas simplement d'identifier le problème, il faut donner des techniques aux enseignants, comme aux chefs d'entreprise, qui sont des techniques de recadrage. Je prends l'exemple de mon université, où on a mis en place le dispositif 100% respect, donc qui est le même. Les baptêmes étudiants, par exemple, pour la première année, n'ont posé aucun souci. Parce que le premier étudiant qui dit « moi je suis dégoûté, moi je suis en colère, etc. », ça produit des recadrages souples dans un premier temps auprès des responsables de baptême. Si le recadrage souple n'est pas suffisant, le recadrage est ferme, et on arrive à partir de là à contrôler le baptême tout en les laissant s'installer dans le folklore étudiant, mais en évitant les dérives. Je crois que c'est ça, la responsabilité d'une institution, c'est de s'équiper, de s'outiller.
En quoi ça consiste, un recadrage ?
Alors, un recadrage, c'est vous rendre conscient des émotions que vous suscitez chez l'autre et faire en sorte, ça c'est un recadrage souple, que ayant conscience, je compte sur vous pour que vous en teniez compte et que vos comportements changent, et surtout que vous n'utilisiez pas, par exemple, l'information que je viens de vous donner, le recadrage, pour aller menacer l'autre. Si c'est le cas, ce sera directement le recadrage ferme qui va avoir lieu, où on dit la banque ou l'entreprise ou l'école est une structure 100% respect, nous n'acceptons pas ce type de comportement. Et là, le recadrage devient ferme. Dans un premier temps, c'est une collaboration
donc là,
avec
c'est
vous.
La banque qui dit tout de suite non, c'est pas nos valeurs.
Ça, c'est pas dans nos valeurs. Nous défendrons pas quelqu'un qui, à un moment donné, adopte et s'installe dans ses comportements. Et donc ça, c'est le recadrage ferme. À l'université, par exemple, c'est le vice-recteur qui fait les recadrages. Il est souple dans un premier temps, pour des situations simplement où on va recadrer en disant on tient compte du fait que maintenant tu connais les effets de ton comportement, donc tu vas être en mesure de les contrôler. Un recadrage souple est très amical, on sait que tu vas le faire parce qu'on a confiance en toi. Et la personne, se sentant investie effectivement de cette confiance, dans 95% contrôle ses comportements. Quand ça n'est pas suffisant, il faut que l'institution ait des procédures de recadrage plus fermes.
En quoi le personnage télévisuel du Dr House constitue-t-il un harceleur de haut rang ?
Alors, c'est un harceleur de haut rang. Je peux le constater, chaque fois que je donne une conférence, je cite le nom du Dr House et je repère tout de suite des femmes qui sourient des hommes aussi, hein, parce que c'est un mâle dominant, c'est le mâle dominant absolu. Il a sa petite cour, il a décidé que l'empathie c'était plutôt encombrant, et il s'autorise à casser les personnes. Alors quand je demande à la dame en question qui sourit, parce que je les repère très très vite, vous appréciez le Dr Ross, qui aime le Dr Ross, elle lève son doigt avec beaucoup de fierté, et je lui dis, c'est un salaud, n'est-ce pas ? Et elle sourit encore plus fort. Le principe, c'est que le mâle dominant, pire il est, plus il plaît. Et donc, plus il va agresser, plus, effectivement, il va se sentir investi d'un pouvoir de séduction. Vous savez, des petits Dr House miniatures, il y en a plein les écoles. C'est pas compliqué à installer. Imaginez qu'il voit son papa rentrer le soir, qui dit à maman, t'aurais vu un tel comme je l'ai cassé devant tout le monde. Et maman trouve que, décidément, papa est séduisant. Inévitablement, vous aurez des mécanismes qui vont mimer le Dr House très très vite.
Mais Dr House, il séduit aussi intelligence et pour son ingéniosité.
Vous avez raison, c'est même au-delà de ça. Il séduit parce qu'il est divin. Il est plus fort que la mort. Et donc, il fait ce que faisaient les dieux grecs avant lui, mais dans un cadre divin, ce qui pose problème sur le plan humain. Imaginez 3 feuilletons de suite où tous ses patients meurent. Plus personne ne va l'aimer. On va le trouver simplement odieux. C'est ça le principe, effectivement.
Et il est les deux.
Il est les deux.
Il est à la fois ingénieux et odieux.
Et c'est pour ça que cette série est aussi géniale. Et donc, on a une question qui se pose, mais qui mérite d'être posée. Vous savez, c'est tout le problème, y compris des médias. Quand vous avez des émissions dans lesquelles il suffit de mettre un animateur qui glousse, pas qui rit, qui glousse, c'est-à-dire qui rit en expliquant que tout ça, c'est de l'impertinence. Ce faisant, il libère une agressivité sans frein de ses chroniqueurs. C'est une émission que vous avez repérée très facilement.
Non, j'ai pas la télé, c'est quoi ?
C'est l'émission de Ruquier. Ruquier ne rit pas, il glousse régulièrement. Il n'agresse pas lui-même les chroniqueurs qui ne sont pas drôles, ils ne sont pas là pour être comiques, ils sont là pour agresser. Et lui,
pour sniper.
C'est pour rire. Évidemment que ces modèles-là sont intégrés par les adolescents qui se disent, au nom de l'humour, je peux tout faire. Or, l'humour...
Les ados, ils ne regardent pas Ruquier.
L'humour et la moquerie n'ont absolument pas les mêmes racines. Si on retourne aux racines animales...
Ah, il fait quoi, Ruquier ? C'est de l'humour ou de la moquerie qu'il fait ?
C'est de la moquerie, très clairement. Et c'est de l'impertinence. Lui.
Ouais, mais comment on voit la limite ?
Alors, par l'effet produit sur celui qui le reçoit.
Ah oui,
c'est-à-dire que si vous expliquez que vous êtes affecté, c'est pas à moi de dire c'est de l'humour, c'est pas de la moquerie, c'est vous qui allez le déterminer. Il faut bien comprendre que les Grecs étaient beaucoup plus subtils que les Romains. Ils avaient 2 mots différents, le gélan et le katagélan. Et les Romains ont fait le risus entre les deux. Le gélan, c'est le rire positif. C'est le rire que vous émettez dans des contextes ludiques, créateur de liens positifs et conviviaux, et les contextes sécurisés. C'est le rire que vous pouvez produire si vous chatouillez quelqu'un ou si vous êtes chatouillé par lui. Sauf que si vous êtes chatouillé par quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous n'allez pas rire. Parce que le contexte n'est pas sécurisant. Vous êtes en pleine...
Vous ne vous laissez pas chatouiller d'ailleurs, si c'est quelqu'un que vous connaissez
pas. Si vous êtes en pleine scène de ménage et que votre conjoint il vient l'idée de vous chatouiller alors qu'on est en plein conflit, vous n'allez pas rire non plus, parce que vous allez dire que ce n'est pas le quart d'heure, le contexte n'est pas ludique. Et si vous voulez voir à quel point c'est relationnel bienveillant, faites pas maintenant parce que ça va vous rendre un peu pathétique, mais si vous pratiquez ce qu'on appelle l'auto-chatouillement, vous verrez que vous n'allez pas rire. Quand on s'auto-chatouille, on ne rit pas, parce qu'il faut que ce soit toujours relationnel. Ce rire-là, il est évidemment un lubrifiant social, donc on peut c'est celui de l'humour. Le kataguelan, lui, il vient pas du rire.
C'est vrai que quand on se chatouille les pieds, ça nous fait pas, ça chatouille pas.
Vous n'allez pas rire, vous êtes dans un contact sécurisant avec l'autre. Ça, c'est le guélan. C'est un rire qu'on peut développer sans problème dans les groupes. Le kataguelan, qui est le rire menaçant, qui ne vient pas lui, contrairement au guélan qui vient du rire des petits singes juvéniles, des jeunes singes, il vient du rictus menaçant des grands singes. Si vous voulez l'observer, vous allez dans un zoo, vous envoyez votre poing en direction des chimpanzés, vous allez voir, ils retournent leurs lèvres et ils crispent leurs mâchoires. Si vous voulez en voir un autre exemple, sans aller dans un zoo, vous attendez un passage de Trump à la télévision. Vous allez voir, c'est systématique. Il a le rictus menaçant.
Là, vous êtes en train de me dire qu'on est fâché avec Ruquier. Bon, c'est pas grave. Et en plus, avec Trump.
Oui, mais j'ai pas de souci de me fâcher avec Trump. Ça me gêne pas. Vous pouvez regarder, j'utilise dans un de mes cours d'ailleurs. Hein, si vous regardez Trump quand il parle à l'ONU, à un moment donné, il va les faire rire énormément. Il leur dit... je suis le plus grand président que les États-Unis n'aient jamais connu. C'est vrai que c'est assez drôle, mais c'est pas volontaire, mais il fait rire l'ONU. Du coup, il se dit, je fais rire l'ONU, c'est pas tous les jours, et il balance deux vannes derrière. Plus personne ne rit avec lui. Faites un arrêt sur image, vous allez voir, il a la mâchoire serrée, il a le regard acéré, il rit, mais on partage pas son rire si on ne partage pas la cible de son agression. Avec un moqueur, vous ne riez que si vous partagez la même cible que lui. C'est pour ça que la moquerie doit être mise sous surveillance.
Mais est-ce que c'est une question d'intention, finalement?
Ah, mais justement, on doit rendre votre intention effectivement visible. C'est-à-dire, si vous le faites maladroitement, parce que vous vous moquez, mais que vous faites souffrir quelqu'un, vous devrez être attentif à l'émotion que vous avez subie. Il ne vous suffira pas de mettre trois lol sur un message sur les réseaux sociaux pour autoriser une agression ou de dire... Je t'ai vanné, mais c'est pour rire, hein. C'est pas à vous à le dire.
Il y a l'excuse qui consiste à dire, que les gens qui se moquent d'abord d'eux-mêmes ont le droit de le faire sur les autres.
Si vous moquez de vous-même, c'est que vous avez une estime de vous-même suffisamment forte.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on dit toujours, de toute façon, commence par te moquer de toi-même. Une fois que tu auras compris que réussi à te moquer de toi-même, tu peux te moquer des autres.
De la prévention du harcèlement dans des mécanismes qui se sont généralisés où vous risquez, parce que si vous n'acceptez pas la moquerie, d'être considéré comme encore plus coupable. Non seulement d'avoir des arguments qui font qu'on s'est moqué de vous, mais en plus de ne pas l'accepter, de ne pas le supporter. On a le droit de dire « je suis triste » parce que... Je prends un exemple sur les réseaux sociaux, un exemple qui a fait beaucoup de dégâts, qui va vous sembler drôle, parce que ça semble drôle aux adolescents, c'est le site dégrené. Le site dégrené, ça fonctionne... Ça vous fait déjà sourire.
Non, je suis en train de regarder votre nez. Je me dis, il était dans le site dégrené. Et bim. Vous voyez, j'ai été agressant.
Voilà, exactement. Alors, on va imaginer qu'on met la photo de ma classe. Et le logiciel va aller repérer la personne qui a le plus gros nez, isoler son visage et le mettre sur le site des gros nez. Et là, vous allez voir, c'est un site haineux. Vous allez recevoir des messages du style, c'est vrai que t'as un gros nez, mais il n'est pas encore assez gros, sinon on voit encore ta sale gueule. T'as fait un procès à tes parents, etc. Si vous avez une estime de vous-même stable, ça passera. Si vous avez une estime de vous-même fragile, vous allez vous effondrer. Il y a quand même eu 3 tentatives de suicide suite à un passage à tabac médiatique sur le site des gros nez. Et c'est présenté par les adolescents eux-mêmes comme quelque chose de drôle. Et c'est ça, c'est là qu'il y a effectivement tout un travail à faire dans les écoles, mais dans le monde d'entreprise. Et le côté tout à fait enthousiasmant qu'on a aperçu, c'est qu'on a commencé dans les écoles et le monde de l'entreprise est venu en disant « il faut qu'on ait les mêmes modèles chez nous ». C'est-à-dire que pour la première fois, ce n'est pas l'école qui a préparé à rentrer dans l'entreprise, c'est l'entreprise qui s'est dit « tiens, dans l'école, ça bouge et on va devoir bouger aussi ».
Longtemps, le monde de l'entreprise n'a pas suggéré parce qu'il n'avait pas les outils et donc le management était confronté à des impasses, ne savait pas comment faire, minimiser.
Sont d'ailleurs dans le même registre. Les écoles ne nient pas le problème. Ils le dénient quand ils ne sont pas outillés. Je vous montre ma boîte mail, vous allez voir des demandes d'écoles, notamment en France, multiples, tous les jours des dizaines d'écoles qui nous demandent simplement « dites-nous comment on doit faire ». Alors évidemment, si vous ne savez pas comment faire, si vous avez peur de faire pire que mieux, vous risquez d'essayer de dénier le problème.
Bon, alors Bruno Humbeck, est-ce que vous avez un exemple d'émission drôle et bienveillante?
Il y en a énormément, bien sûr.
Donnez-moi un exemple, parce que là, on s'est farci Ruquier.
Alors, si vous voulez vraiment...
Donnez-moi une qui fait rire, et bienveillante.
Bienveillante, vous avez...
Vous voyez, vous cherchez...
Belges. Je cherche des émissions belges, non, il y en a.
Non, mais je ne veux pas des Belges, moi je veux des Français, je veux de la télévision française.
Mais il y en a énormément, tout dépend de de nouveau de la mise en scène. Oui, mais regardez,
vous m'avez cité Ruquier, oui. Et ça vous est venu instantanément, et vous ne me citez pas une émission bienveillante.
Alors, parce que effectivement, il y en a
on pas, les voit pas
énormément.
Voilà. Ou il y en a pas
énormément parce que vous allez faire beaucoup plus de buzz par la malveillance que par la.
C'est un genre aujourd'hui, en fait.
C'est un genre.
Le lynchage et l'arène. La mise en arène.
Tout à fait. La mise en arène, et vous utilisez bien le mot, c'est-à-dire dans lequel il va y avoir un
combat à mort.
Et c'est pour ça que les démocraties mettent en scène ce type d'arène dans lequel vous allez mettre
c'est
face
ta raison contre ma raison. Et
vous avez des personnes qui viennent avec leur production, ils ont écrit un livre et qui vont se faire agresser d'une manière telle qu'un avocat comme Dupond-Moretti va devoir les défendre.
Ouais, enfin, les débats de télévision aujourd'hui d'information sont exactement aujourd'hui faits de la même façon. C'est un tel clash machin, truc. Et
le problème, c'est que les modèles ont été intégrés dans les écoles sans qu'il y ait de réponse. C'est pour ça que quand on met en place les espaces de parole régulés, qui sont un des outils qu'on propose, eh bien, ça permet à chacun de protéger son émotion.
Bon, Bruno Humbeck est passionnant. Il est psychopédagogue. Ça y est, j'ai réussi à le dire avant la fin de l'émission. Je rappelle le titre de votre livre, l'éditeur c'est Odile Jacob, et vous publiez Pour en finir avec le harcèlement à l'école, au travail et sur le net. Merci d'être venu en France ce matin. Vous êtes arrêté sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.